Philosophie première par le Père Philippe à Saint-Joudard, le 28 mars 90.
Voyez la position du père Geffray. Je ne vais pas insister dessus. Pour le père Geffray, les trois grandes propriétés de la personne, ou ses conditions sine qua non, sont la conscience, l'infinitude et la liberté. Voyez, on mêle un point de vue psychologique à un point de vue métaphysique. C'est intéressant comme piste, nous y reviendrons. La conscience, l'infinitude et la liberté. La conscience dérive de la nature intellectuelle de la personne. C'est le nous qui est conscient. Cette conscience de soi témoigne de l'identité au-delà de la variété des opérations. C'est ce que saint Augustin avait si bien senti lorsqu'il parlait de la mémoire de soi. Donc, le père Geffray rejoint saint Augustin dans la mémoire de soi avec la conscience. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça fait rien. On voit qu'il y a un lien. On ne peut pas dire, bien que certains l'aient cru, que la conscience constitue la personne. Car elle présuppose le suppôt métaphysique qui seul constitue la personne comme personne. Nous n'avons pas conscience de la conscience, mais de l'identité du moi sous ses divers états. L'infinitude relève de la nature intellectuelle qui est infinie, non en son être, comme Dieu, mais intentionnellement. Elle est ouverte à tous les êtres. L'intelligence ordonnée à l'être. C'est la noblesse de l'esprit de pouvoir saisir l'infinitude de l'être. Nous touchons là à une certaine transcendance. Enfin, la liberté est comme une brèche en la nature humaine. Celle-ci n'est plus déterminée à tout homme. Elle est volontaire et libre. Ayant raison de tout, l'homme se donne les fins de son agir. Il se détermine. Donc, retenez ces trois aspects. C'est un peu juxtaposé, vous voyez. C'est pas très structuré, mais c'est intéressant. Fin samaritain. Notons bien que chacune de ces qualités se prend de la nature rationnelle de l'homme. On ne peut donc déterminer ce qu'est la personne dans ses propriétés qu'en faisant appel à sa nature, c'est-à-dire à l'âme spirituelle. Mais alors, pourquoi faut-il souligner si fortement l'opposition entre les deux ? Ces qualités, dont deux relèvent de l'intelligence et la troisième de la volonté, liée à l'intelligence, appartiennent indubitablement à la nature spirituelle. Comme nature spirituelle, elles ne caractérisent donc pas la personne humaine. Donc ça, c'est la critique qu'on peut faire, je dirais. La nature spirituelle implique conscience, infinitude, liberté. C'est pas la personne. Vous voyez? Maintenant, regardons Heidegger. Il faut quand même faire un petit salut à Heidegger. Puisque c'est quand même, il faut reconnaître, Heidegger est ça, ce serait très intéressant. Si quelqu'un s'intéresse à ça, faire un parallélisme entre Heidegger et Platon, ce serait palpitant. Parce que c'est vraiment ça. Vous voyez, quand j'essaie de comprendre jusqu'où Heidegger a-t-il pénétré dans l'être, jusqu'où Platon a-t-il pénétré dans l'être, c'est quand même ça que je dois essayer de comprendre. Bien, je vois que ce sont deux philosophes de la qualité. C'est les deux grands philosophes de la qualité. Et ce sont les deux grands philosophes qui ont identifié être et intentionnalité. C'est normal, quand on ne va pas plus loin que la qualité, on identifie être et intentionnalité. Parce que la forme, c'est ce qui est premièrement intelligible. La qualité, c'est l'intelligibilité immédiate. Alors, on comprend comment c'est un ontologisme qualitatif, si vous voulez. Heidegger estime que toutes les recherches et toutes les interrogations qui, jusqu'à présent, ont eu le Dasein pour objet, ont manqué le problème proprement philosophique. Et il se propose de montrer tout d'abord comment, en parlant d'un moi et d'un sujet immédiatement donné, on manque absolument la réalité phénoménale du Dasein. Autour du Dasein. C'est très difficile, c'est intraduisible le Dasein. C'est normal, puisque c'est l'intuition. Si vivement que l'on s'oppose à toute idée d'une substance de l'âme, à toute réification de la conscience, l'idée même de sujet continue de participer ontologiquement à la position d'un subjectum hypokaimenon. Heidegger revient beaucoup à la philosophie grecque, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est du reste ça qui est intéressant. Il est fatigué de Husserl. Disciple de Husserl, il l'a quitté, il l'a critiqué. Husserl, la phénoménologie. Il y en a deux qui ont quitté Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty. Et tous les deux sont revenus à une recherche de l'être. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là que Heidegger et Merleau-Ponty ont pour nous quelque chose de particulièrement intéressant. Parce qu'ils ont voulu dépasser l'intentionnalité pour redécouvrir l'être. L'être sauvage de Merleau-Ponty. Et puis, penser l'être de Heidegger. Alors là, il y a un je n'insiste pas trop. Ce n'est donc pas par souci d'originalité terminologique que Heidegger évite l'usage des termes sujet, conscience, âme, esprit, personne, vie et homme pour désigner les temps que nous sommes nous-mêmes. Mais par souci de vérité. C'est au fond. Heidegger sent que la philosophie occidentale est fatiguée, est complètement fatiguée, qu'elle croule. On ne sait plus ce que c'est que la philosophie. Ça, il l'a ressenti très très fort. Alors, n'oubliez pas que Heidegger, en Allemagne, au moment de la grande crise du nazisme, Heidegger a failli être rejeté, mis en prison et peut-être même fusillé. Parce que, avec le nazi, il n'a pas réagi. Je ne dis pas qu'il était pour. Et c'est Sartre qui l'a sauvé. Sartre qui avait l'action sur les Américains. Parce que les Américains avaient grande envie de limoger Heidegger. L'armée américaine. Alors il ne faut pas oublier ça. Donc il est à un moment terrible au fond. C'est vrai. Alors, chez lui, il sent que la philosophie croule.
Forêt, il y a des avenues.
il donne ce très bel exemple que j'aime beaucoup, du reste, que je trouve très juste. Quand on croule dans l'eau, si on touche le fond et qu'on donne un bon coup, on remonte à la surface. Bien, la philosophie touche le fond. Et avec Heidegger, elle remonte à la surface. Heidegger est très conscient d'un renouveau complet de la philosophie. Mais c'est poétique. Alors, c'est quelque chose de très original, c'est sûr. À ce point de vue-là, c'est très intéressant. Il y a quelque chose qui... Moi, je trouve qu'Heidegger, c'est le Platon de la philosophie moderne. Platon était lui aussi en face d'une usure de la philosophie, avec les sophistes. Les sophistes, c'était la rhétorique. Et la rhétorique était, pour le point de vue politique. Alors Heidegger sera là, je veux dire, Platon sera là pour redonner un souffle poétique. Vous voyez, quand Platon dit dans Lyon, le petit dialogue de Lyon, quand vous êtes fatigué, lisez Lyon. Quand Platon donne dans Lyon,
entre étant et être, le devenir et l'être, se retrouvent, mais le
tout ça, c'est de la côté, c'est des propres idées, c'est l'être de la personne. Aussi estime-t-il que les interprétations qu'Husserl ou un Max Scheler, si différents soient-ils, donnent de la personnalité, ont ceci de commun qu'ils omettent de poser le problème de l'être même de la personne. Voilà le grand grief. Il a raison. Le grand grief de Husserl et de Max Scheler, c'est qu'ils oublient l'être de la personne. Or, ce qui est intéressant, c'est que la personne, c'est l'être le plus parfait que je peux expérimenter. Vous n'expérimentez aucun être aussi parfait que la personne. Vous voyez, le Dasein, être là, l'être qui s'impose à moi. Heidegger lui-même. Pour Heidegger lui-même, la question fondamentale est celle de l'être du Dasein. Et ce qui déforme et égare la question fondamentale du sens du Dasein, c'est une dépendance constante à l'égard de l'anthropologie antico-chrétienne. Vous voyez, antico-chrétienne. La vieille. C'est cité ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. J'aurais pas inventé ça. Tandis que ça, c'est très bon. C'est très bon à noter. Donc, et c'est juste. C'est ça qui est intéressant. C'est dit avec son langage, mais il a senti quelque chose. Ce qui déforme et égare la question fondamentale du sens du Dasein. Du sens de l'être de la personne. C'est une dépendance constante à l'égard de l'anthropologie antico-chrétienne, dont les fondements ontologiques sont insuffisants. Cette anthropologie s'est élaborée à partir de la définition grecque de l'homme comme animal raisonnable et du principe conducteur d'ordre théologique fourni par la Genèse. Imago Dei. Oui, antico-chrétienne. Alors c'est la Genèse. Imago Dei. Ça a hanté toute l'Europe. Alors il faut tout renouveler, tout reprendre à la racine. Le Dasein, tout Parménide et le sommet grec, l'Entelegeia. C'est assez bien vu. Et lui, alors, il va. Essayez de rejoindre Parménide et l'Entelegeia. C'est ça qu'il vante. Alors c'est juste, voyez, il serait... Alors voyez, c'est là où on voit très bien toute la différence entre Rahner, hein, Karl Rahner, qui a joué un rôle très important au Concile, beaucoup plus important que les Français. Revient, non pas principe conducteur d'ordre théologique fourni par la Genèse, créons l'homme à notre image et ressemblance. Et la dogmatique chrétienne n'a jamais voulu poser le problème ontologique de l'être de l'homme. Un coup de patte violent contre la théologie, la dogmatique chrétienne. Alors Heidegger a été très influencé pendant tout un temps par Luther. Il est catholique et il est mort catholique. Il a été enterré dans l'église catholique. Mais il a été très influencé par Luther. Oui, alors ça, c'est l'influence luthérienne qui lui fait dire des choses comme ça. La dogmatique chrétienne n'a jamais voulu poser le problème ontologique de l'être de l'homme. La question de l'être de l'homme a été oubliée lorsqu'on s'est efforcé de déterminer l'essence de l'étant humain. Déterminer l'essence de l'étant humain, c'est vouloir découvrir l'être dans l'étant humain. Au contraire, cet être a été compris naturellement comme être subsistant, tel que celui de tous les autres êtres, de toutes les autres êtres, de toutes les autres choses créées. Heidegger précise ensuite que les fondements ontologiques de l'anthropologie, de la psychologie, de la biologie. Tout ça, il n'aime pas du tout. Hein. Anthropologie, psychologie, biologie, tout ça, c'est l'étant. Et ça n'atteindra jamais l'être. Dans la position de Heidegger. Hein. Il est farouche. Entre la science et l'ontologie fondamentale, il y a une coupure absolue. On ne peut pas se passer de l'un à l'autre. Le devenir, la psychologie étudie le devenir, la biologie étudie le devenir, les sciences étudient le devenir, l'anthropologie étudie le devenir. Tout ça, c'est le devenir. Il faut découvrir l'être. Et l'être ne peut se découvrir qu'à partir de l'esprit, donc la fine pointe de l'homme. L'être n'est parfaitement lui-même que dans l'esprit, que dans la pensée. C'est pour ça qu'il faut penser l'être. Donc la question de l'être de l'homme a été oubliée lorsqu'on s'est efforcé de déterminer l'essence de l'étant humain. Au contraire, cet être a été compris naturellement comme un être subsistant, tel que celui de toutes les autres choses créées. Heidegger précise ensuite que les fondements ontologiques de l'anthropologie, de la psychologie, de la biologie, loin de pouvoir être induits, hypothétiquement, des matériaux empiriques doivent toujours être déjà là, Dasein, lorsque commence la collation de ces matériaux. Vous voyez, il est contre l'induction. On ne peut pas, à partir du sensible, découvrir l'être. Vous voyez, le vieux reste de Kant, le noumen ne nous est pas donné à travers la réalité sensible. Le noumen est complètement caché. Alors il ne le dit pas, mais au fond, en réalité, il y a ça qui reste. Alors, il s'agit donc de déterminer cet a priori, non pas de le construire, mais de le rechercher. Et pour Heidegger, l'horizon immédiate qui doit s'offrir à l'analytique du Dasein et la banalité moyenne et quotidienne qui est un mode d'être du Dasein. Dans la perspective de Heidegger, la détermination essentielle de l'homme s'exprime dans la fameuse formule « la substance de l'homme est l'existence », qui signifie ceci, la manière dont l'homme, dans sa propre essence, est présent à l'être, et l'instance extatique dans la vérité de l'être. Alors ça, hein, pensez à ça voudrais atteindre quelque chose dans un langage poétique qui ne peut pas l'atteindre. Oui. Alors il tourne autour. Alors écoutez bien ce point de vue-là, parce que ça c'est quand même quelque chose. Donc la substance de l'homme est l'existence.
Sorte, il veille sur la vérité de l'être pour quand la lumière de l'être
lisez, parce que ça vous verrez rien, directeur. Mais laissez-vous prendre par la puissance de la parole et du verbe, comme on écoute un poète. C'est extraordinaire. Allez, alors, la métaphysique poétique, c'est un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice. Pensez pas que vous pensez un feu d'artifice, ça éclate tout le temps. Donc ça ne peut pas être pensé. Vous suivez la ligne. C'est ça, ça éclate. Ça éclate dans l'existence. Parce que c'est toujours là. Et ça éclate tout le temps. Et c'est toujours l'instance. L'instance dans l'extase. Dans la vérité de l'être. C'est vraiment l'être de la personne que Heidegger cherche. Donc, la personne, ça va pas. C'est l'être de la personne que Heidegger cherche. Cet être, ou l'être dans la personne, c'est plus juste l'être dans la personne que Heidegger cherche. Cet être qui a été oublié, car on ne s'est intéressé qu'aux plus hautes déterminations humanistes de l'essence de l'homme. Il y a beaucoup de vrai de ça, vous savez. C'est la fatigue de l'humanisme. La culture européenne est fatiguée. Par l'analyse. qu'il faut montrer comme celui qui saisit quelque chose d'assez étonnant.